J'ai réussi totalement ce que
tu fais. Moi, c'est Céline de Combati au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, l'activité de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Voilà, une fois encore, merci de votre fidélité à Radio Okapi et bienvenue dans Parole aux auditeurs, mesdames et messieurs. Nous vous proposons ce nouveau numéro, le tout premier de la semaine. Le conclave de l'opposition congolaise tenu à Jeval s'est clôturé le jeudi dernier. Dans un communiqué final, sanctionnant la fin des travaux, les participants ont tous levé l'option d'aller au dialogue politique qui devra se tenir dans l'esprit de la résolution 2277. Ils ont en outre préparé la liste exhaustive de ce qu'ils considèrent comme principales questions de l'heure et ils les ont classées par ordre de priorité. L'alternance et la passation pacifique du pouvoir après le 19 décembre, ainsi que la liberté des prisonniers politiques, étaient des grands points de convergence de ces assises. Alors certains observateurs estiment que l'opposition dans son ensemble devra capitaliser cette rencontre, ce qui ne sera pas facile, pense une autre opinion au regard du contexte politique en République démocratique du Congo. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890-315 pour votre intervention en direct. Julie Pesabongonda est au standard. Jean-Noël Mokondo à la mise en onde, Piero et Lamégie à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung sous la supervision de Martin Sebou Jangwe. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890-63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous recevons en ligne Amos, vous êtes à Bukavu. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour JR, bonjour la communauté de la radio Okapi. En fait, nous avons suivi tous ce qui s'est tenu en Belgique et nous avons suivi les différentes recommandations qu'a donné l'opposition dans son ensemble. Mais nous disons, nous tenons d'abord à encourager les opposants qui ont fait la Belgique et qui ont compris qu'il fallait que l'opposition se réunisse. Mais jusque-là, nous nous disons, parce qu'après que l'opposition ait donné ses recommandations, nous avons suivi le pouvoir en place, rejeté en bloc tout ce que l'opposition a fait en Belgique. Et nous avons nous-mêmes suivi Aubin Minaku, qui a parlé d'un coup d'état constitutionnel. Et il a d'ailleurs appelé le peuple congolais à finir pour bloquer la route à ceux-là qui veulent chasser le régime en place. Moi, je me dis, par rapport à ce que vous m'avez dit, on se pose maintenant la question, aujourd'hui, qui est en train de parler au nom de la population? Parce que la population qui est dans une misère, lui imposée par la majorité en place, c'est cette même majorité aujourd'hui qui veut se montrer comme si c'est elle qui devient le libérateur du peuple congolais. C'est tout à fait une contradiction par rapport à ce que nous avons suivi. Dedans, je me dis, si du moins il y avait Minaf qui s'est donné le cœur de dire ceci, lui ne comprend pas que parmi les gens qui devaient être interpellés pour la non-tenue des élections dans les délais, il y a Aubin Minaku. Si nous serions dans un état responsable, Aubin Minaku serait déjà interpellé parce qu'il est le président de l'Assemblée nationale, mais aussi il est l'autorité budgétaire qui devrait donner à la CENI les moyens pour permettre à la CENI d'organiser les élections dans les délais conditionnels. S'agissant des recommandations de l'opposition, moi je pense bien que l'opposition doit éviter de tomber dans le piège du pouvoir en place, dans ce que je peux qualifier comme étant une distraction. Parce que le président de la République a dit que non, le soi-disant dialogue va commencer le 30 juin. Au cas où le dialogue ne commence pas le 30 juin, et au cas où le dialogue ne sera pas organisé selon la résolution 2277 des Nations Unies, qu'est-ce que l'opposition compte faire? Je pense bien que l'opposition devait donner un ultimatum au pouvoir en disant si vous n'organisez pas le dialogue dans le cadre de la résolution 2277 des Nations Unies, en telle date, le policier devait directement donner des actions qu'il va mettre en place pour chasser le régime en place et permettre au peuple congolais de se doter de dirigeants responsables. Parce que le pouvoir en place, qui a tout un panier de stratégies suicidaires, risque de ne pas organiser ce soi-disant dialogue dans le cadre de la résolution 2277 des Nations Unies, mais aussi risque de ne pas organiser ce dialogue de 30 jours comme cela a été dit. Et il peut aller même au-delà de 2017 et le policier sera en train d'attendre le dialogue qui sera organisé au moment où c'est le même régime qui reste au pouvoir. Moi, je pense que l'opposition devait d'emblée donner un ultimatum en disant voilà la date à laquelle nous avons commencé les actions de haute envergure pour permettre au peuple congolais de se débarrasser de ce régime qui a commencé le faire de manière congolaise.
Ça sera en contradiction avec l'acte d'engagement signé par les opposants à Géval qui estiment qu'il faut au 19 décembre qu'il n'y ait pas de casse, qu'il n'y ait pas de troubles, qu'il y ait effectivement la passation du pouvoir de manière pacifique.
C'est nécessairement pas serait cela, mais comme nous avons en face de nous un régime qui milite à tout prix de se terminer au pouvoir, c'est là que nous-mêmes nous avons dit, quand nous avons suivi le président Tshisekedi parler de chasser en douceur le président, le régime en place, on s'est dit clairement, c'est comme tu dirais, il y a une contradiction. Parce que quand vous dites que vous allez chasser quelqu'un, ça signifie que vous allez mettre en place des actions de haute envergure pour lui permettre de partir. C'est pourquoi j'ai dit l'opposition doit éviter de tomber dans le pays du pouvoir en place. Parce que selon ce que le régime a dit juste après les recommandations de Belgique, nous comprenons qu'il y a un problème et l'opposition doit être prête à engager des actions de haute envergure juste après le 30 juin au cas où le dialogue n'est pas convoqué à qui respecte la résolution 2277. C'est cela que moi j'ai dit, l'opposition, en dépit de ce qu'elle a dit, elle devait donner un temps au pouvoir qui lui permet d'abord d'organiser le dialogue voulu par l'opposition, mais aussi de libérer tous les prisonniers politiques qui sont arrêtés par le pouvoir.
Amos,
il y a une distraction et le peuple la fera perdre.
Alors, Amos, il y a eu des préalables qui ont été posés par le président de l'UDPS pour sa participation au dialogue convoqué par Kabila. Nous avons vu par deux ou par trois fois d'ailleurs cet ultimatum changé, d'autant plus que les facilitateurs ne répondaient pas à ce préalable. Alors aujourd'hui, ce que vous demandez à cette opposition, ne craignez-vous pas qu'il y ait un éternel recommencement, répondissement ou encore un feuilleton qui sera loin de se terminer?
C'est ça qui crée une contradiction, parce que depuis que le dialogue a été lancé l'année passée, il y a déjà une année, l'opposition libre peut donner toujours les mêmes exigences, mais le pouvoir en place n'a pas voulu respecter. Rien ne prouve que, au vu des stratégies qui continuent à monter la majorité en place, rien ne prouve que la majorité respectera les recommandations données par l'opposition. C'est pourquoi moi je me dis, l'opposition devait donner un temps à la majorité, et commencer déjà à préparer la population à faire la rue au cas où la majorité ne va pas respecter cette fois-ci l'État qui les veut donner par l'opposition.
Merci.
Donc là que nous disons, l'opposition doit faire vraiment attention, et c'est là que le peuple doit rester vigilant, parce que nous risquons de tomber dans le piège du pouvoir en place, et nous allons arriver en date du 19 sans que le dialogue n'ait pas eu lieu, sans que rien n'a été organisé, et c'est le régime en place qui va toujours continuer à se tenir au pouvoir. Parce qu'au regard de cette problème, il n'a quoi dire vraiment. Moi, je doute et je vois que l'opposition doit commencer cette fois-ci à nous mobiliser et pour que nous prenions en charge et chasser le régime en place qui est le thème de notre malheur.
Merci beaucoup, Amos. Vous avez encouragé la démarche des opposants que vous avez pratiquement notamment salué dès demain. La réaction de la majorité ne s'est pas fait attendre directement et vous avez réagi par rapport à cette position de la majorité. Pour vous, vous estimez que le président de l'Assemblée nationale ne pouvait pas réagir rapidement. Bon, c'est vrai, d'aucuns pourraient aussi dire, parce que c'est discutable, nous sommes dans la démocratie, chacun peut réagir par rapport à la réaction des uns et des autres, mais vous estimez que aujourd'hui, si nous nous retrouvons dans le cas de figure où les élections ne sont pas organisées, le premier responsable responsable, c'est lui qui est l'autorité budgétaire, c'est l'Assemblée nationale, et en fait, son président qui n'est que Obey Minaku. Alors, donc, vous demandez à l'opposition, pour capitaliser cette rencontre de Géval, de pouvoir proposer un chronogramme d'activité au cas où le gouvernement ou le pouvoir en place ne pouvait pas, ne voulait pas faire avec ces préalables. Merci beaucoup. Stéphane, vous êtes à Boma. Bonjour et bienvenue.
Bonjour à tous les
auditeurs. Quel est votre avis? Vous avez suivi Amos qui a encouragé d'une part les opposants et qui a fustigé les comportements de la majorité et qui demande un chronogramme d'activité pour pouvoir capitaliser cette rencontre de Géval.
Bon, merci beaucoup, J.S. Bon, je pense que dans le contexte actuel, le rassemblement de l'opposition devrait être salué, même par la majorité. Parce que dans ces premières tentatives de convocation du comité préparatoire et tout, les facilitateurs désignés nous ont dit, je crois par deux sorties devant la presse, que le blocage venait de l'opposition qui ne parvenait pas à fédérer ces différentes tendances. Et donc, si par principe l'opposition se mettait ensemble pour un quelconque dialogue, tant pour celui convoqué par le chef de l'État ou celui de 22-77 et tout, par principe, dans ce contexte, le rassemblement de l'opposition devrait être quelque chose de salué par tout le monde, par toutes les tendances. Mais quel n'est pas mon étonnement de voir que, à l'ouverture du conclave de l'opposition, nous avons vu des messages d'encouragement et de félicitations de certains cadres de la majorité qui disaient que c'était une bonne chose, qu'ils encourageaient les conclaves et tout. Et le lendemain, à la lecture des résolutions de ces conclaves-là, le ton a brusquement changé et la réaction, cette réaction nous fait peur. Maintenant, ça c'est d'abord sur le principe. Maintenant, dans le fait, qu'est-ce que l'opposition a dit qui n'est pas dans la Constitution? En réalité, l'opposition n'a pas donné de faits nouveaux. L'opposition n'a que récapitulé les différentes positions, les différentes tendances qui ont toujours été exprimées, notamment les élections dans les délais constitutionnels, ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'y a pas eu un élément nouveau dans les faits, si ce n'est le fait que l'opposition s'est rassemblée. Et donc, je note premièrement que, en définitive, je note que la majorité ne veut pas du rassemblement de l'opposition. Donc, même si l'opposition va répéter 10 000 fois qu'elle veut les élections dans les délais constitutionnels, elle veut le départ du président de la République le 19 décembre et tout, tant que cette opposition-là sera émiettée et que ces positions-là seront répétées de manière disparate par petits groupes, ça sera toujours dans les affaires, dans les bonnes affaires de la majorité.
Oui, Stéphane, ce qu'on reproche aujourd'hui à l'opposition, c'est d'avoir, en tout cas le plus grand péché, c'est d'avoir organisé ces assises de Géval en Belgique. Pourquoi pas tenir ces gens de rencontre à Kinshasa?
J.S., s'il vous plaît, je crois que vous me donnez une bonne occasion de rappeler aux uns et aux autres. Et je ne sais pas s'il y a un auditeur au bout du fil ou si ma mémoire n'est pas bonne, quelqu'un pourra me contredire. Tous les changements majeurs intervenus dans notre pays depuis son indépendance ont toujours été conçus, décidés à l'extérieur. 1960, Belgique, Antananarivo, Lusaka, Sun City, Kampala, Nairobi, ainsi de suite. Même la 2277, c'est une suite d'Addis Abeba. Et toutes les tentatives de conciliation des Congolais partis de l'intérieur du pays, conférence de Goma, concertation nationale, n'ont toujours couché que d'une souris. Et donc, ça c'est un faux problème, c'est un faux débat, ça n'a rien à voir. Monsieur Gilles, ça, on ne peut pas reprocher à l'opposition, moins encore à la majorité, d'aller convoquer, d'aller tenir un conclave à l'extérieur. Ça, c'est un faux problème, c'est un faux débat. Qui ne sait pas que tous nos présidents, tous nos quatre présidents que nous avons connus dans ce pays, ont été soit sont tenus à leur investiture et ou démis et ou assassinés toujours de l'extérieur. Qui ne le sait pas? Tout le monde le sait. Pourquoi on veut faire des incantations autour d'une souveraineté incantatoire? Non, ça c'est un problème.
Et Stéphane, vous êtes
terminer à dire, c'est quoi?
Stéphane, vous êtes à Beaumont. Est-ce que vous avez suivi l'actualité comme nous? Ce qu'on reproche en plus à l'opposition, c'est d'avoir, à la conclusion de ces conclaves, d'avoir eu l'occasion de saluer le GRNS. Bon, je crois que c'est à lui qu'on a remis toutes les résolutions. Donc, comme qui dirait, il y a un Rousseau Roche, il y a une main noire, il y a la communauté internationale qui tire des ficelles.
Non, mais là.
Et 56 ans après, nous faisons toujours des courbettes à la Belgique.
Non. Mais c'est JR. Didier Reynders, la communauté internationale et tout, c'est un problème, ça c'est un autre débat pour lequel la société, la nation congolaise doit naître. La nation congolaise, à mon humble avis, n'est jamais née. Nous ne sommes pas encore nés en tant que... Lorsque nos immondices à Kinshasa sont évacués par un financement de l'Union européenne de 800 000 euros le mois, et que l'Union européenne coupe ce financement et que les poubelles pourrissent et la ville commence à puer, donc attention, là c'est un autre problème. Ça, ce sont des choses, c'est des bonnes guerres. Ce sont des arguments que chacun peut trouver pour dire quelque chose. Nous avons vu le même Didier Reynders en train de remettre des cadeaux emballés à des autorités à Kinshasa, tout comme il l'a fait en Belgique. Il y a des images, il y a des vidéos. Je crois que vous êtes journaliste, Radio Okapi doit avoir ces images-là. Ça, c'est un faux problème. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est la solution au problème congolais. Et même mon prédécesseur tout à l'heure a dit quelque chose. L'opposition devra produire un chronogramme d'activité. Moi, j'ai dit, tout va dépendre de la pression de l'extérieur. C'est l'extérieur qui va régenter ce dialogue-là et qui va donner, faire avancer les choses. Nous avons vu avec Daryl Lewis, quand il y a des pressions, il y a des pressions qui peuvent même annuler tout le processus.
Merci beaucoup Stéphane d'avoir appelé des Boma. Vous avez rejoint également en partie le point de vue tout à l'heure d'Amos qui avait appelé des Boka, vous qui a aussi encouragé les opposants dans cette démarche, mais qui a demandé en fait un chronogramme, mais qui pourrait aussi rencontrer l'assentiment de ceux qui peuvent même décider de l'extérieur. Vous n'avez pas trouvé de mal de pouvoir que l'opposant, les opposants puissent tenir cette conférence de l'extérieur comme l'ont fustigé certains membres de la majorité. Léon, vous nous avez rejoint, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue.
Bonjour monsieur, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Voilà Léon, alors la question aujourd'hui, l'opposition dans son ensemble, selon certaines personnes, devra capitaliser cette rencontre de Géval, ce qui ne sera pas facile, hein, pense une autre opinion, au regard du contexte politique en République démocratique du Congo. Quel est votre avis?
Oui, merci d'abord pour l'accord de la parole, mais je pense que vraiment c'est un non-événement. Ce n'est pas quand même normal que on puisse convoquer les gens, disons, les gens de l'opposition, et puis on les appelle à Belgique par Étienne Tshisekedi pour ne rien dire. Parce que tout ce qui a été dit à Belgique, c'est tout ce qui est dit tous les jours ici. Pourquoi est-ce qu'il faut déplacer les gens de la RDC pour aller à Belgique pour causer ce qui concerne la RDC? Je pense que vraiment c'est un non-événement et nous regrettons parce que nous étions en train de penser que cette histoire de Belgique pouvait être une bonne chose. Mais malheureusement, nous sommes très déçus.
Merci, merci.
C'est la même chose. Si c'est dit ici, on fait les marches pour les mêmes choses, on fait des meetings politiques pour les mêmes choses, et ce sont les mêmes choses qui sont allées encore répéter. C'est-à-dire qu'il y avait un autre agenda caché qui n'ont pas pu ouvert parce qu'ils ont senti qu'il y a eu...
Merci, merci beaucoup Léon. Merci beaucoup Léon pour vous, vous partagez l'avis des autres qui estiment que voilà, pourquoi aller en Belgique, 56 ans, nous sommes un pays souverain. On peut prendre notre destinée en main. Kevin, vous êtes en bas de la carte. Bonjour et bienvenue. Voilà, Kevin, vous êtes avec nous. Kevin?
Oui, allô?
Quel est votre avis, Kevin?
Oui, moi, je peux intervenir en disant que nos opposants demandent, en fait, l'opposition veut une chose et avec son contraire à la fois. Parce que lorsqu'ils se sont réunis à Bruxelles, ils se sont convenus d'abandonner, soit de mettre à l'écart les dialogues selon le format de Joseph Kabila pour faire allusion au format de l'accord Cadis Abeba. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais lorsqu'il ne fait pas allusion à l'organisation des élections, c'est ce qui nous fait peur. Mais ils insistent sur la passation pacifique du pouvoir. Mais de quelle manière y aura-t-il passation? De quelle manière y aura-t-il passation? C'est là où on ne comprend pas.
Oui.
C'est la question la plus importante.
Oui, Kevin, je me parlais quand même de vous couper tout de suite. Hein. Est-ce que vous avez à lire avec une extenso l'engagement pris par l'opposition à cette conférence? Parce que au point 1...
Même si on n'a pas lire une extenso, mais je crois la fondamentale dans leur... rapport ou leur conclusion, c'est le dialogue.
Voilà, je vais vous aider, Kevin, parce qu'il est dit dans cet engagement, dans l'acte d'engagement, que nous exigeons, nous, c'est-à-dire les opposants réunis à Geval, l'organisation des élections dans les délais constitutionnels et de l'élection présidentielle avant le 19 décembre 2016, conformément à l'article 73 de la Constitution. N'est-ce pas là avoir un regard sur les processus électoraux?
Normal. Donc, dans ces cas-là, alors il faut vraiment jeter un coup d'œil sur les délais normaux pour organiser ces élections. Nous avons suivi le président de la CENI qui nous dit qu'il est possible d'organiser les élections dans les délais. Je ne sais pas si c'est avec un coup de baguette magique qu'on va arriver à organiser les élections dans les délais constitutionnels. L'essentiel, c'est d'organiser les élections et qu'on doit apaiser nos esprits, attendre qu'il y ait élection. C'est comme pour dire que si on n'organise pas les élections dans les délais constitutionnels, qu'est-ce qui va arriver? On évite les bains des fonds. Ça ne doit pas être une solution pour nous que lorsque les élections ne sont pas organisées dans les délais constitutionnels, qu'est-ce qui va arriver?
Merci beaucoup, Kevin. 081-890-63-15 pour participer à ce débat autour du conclave de l'opposition congolaise tenu à Genval, en Belgique, qui s'est clôturé le jeudi dernier. Certains observateurs estiment que l'opposition dans son ensemble devra capitaliser cette rencontre, ce qui ne sera pas facile, pense une autre opinion au regard du contexte politique. RDC, réagissez.
À la découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, et de la débrouille qui tient tout le secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi, chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Okapi en balade. Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Une fois encore, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre cadre d'échange citoyen. Nous poursuivons avec vous. Vous êtes en ligne, honorable Tundula. Vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Pierre.
Voilà, vous intervenez depuis Bruxelles, où vous avez participé à cette grande rencontre de l'opposition. Vous êtes membre du G7 et vice-président, je crois, de cette plateforme de l'opposition. Vous avez, comme je l'ai dit, participé à ces conclaves. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir en grande ligne sur les assises de Geval?
Bien, merci beaucoup. En grande ligne, je crois qu'on peut retenir ce qui suit. 1. L'opposition a décidé, l'opposition et les forces sociales acquises au changement ont décidé d'agir désormais ensemble en parfaite communion d'idées et d'objectifs. Pour cela, ils ont mis en place un cadre d'action et un mécanisme de suivi qui s'appelle le rassemblement. Le rassemblement a comme organe le comité des sages présidé par le président Tshisekedi, initiateur de la conférence, et comprenant les délégués des principales plateformes qui ont participé à la conférence. Il y a sur le terrain l'organe de coordination des actions des forces politiques et sociales acquises au changement. Cela veut dire que nous avons répondu à la demande pressante de l'opinion nationale internationale de nous voir agir ensemble. Deuxièmement, nous sommes mis d'accord que l'action commune que nous devons mener à travers le rassemblement est fondée sur certains nombres de principes, en particulier les principes suivants: le respect de l'identité et de l'autonomie des organisations politiques et sociales parties prenantes, la consensualité des décisions et l'engagement de toutes les parties prenantes à respecter absolument les engagements pris et à œuvrer activement à la mise en œuvre de conclusions de la conférence de Genève. L'autre décision importante, c'est que désormais, nous avons un entendement commun du dialogue politique, entendement qui est articulé sur les points ci-après. L'accord unanime de tous sur le fait que notre combat doit être et demeurer un combat pacifique et un combat pacifiste. Donc, nous excluons totalement la violence et les affrontements. Un autre principe, c'est que dans le processus du dialogue, nous sommes d'accord qu'il faut respecter absolument la Constitution. C'est pour ça que nous excluons aussi absolument tout référendum, en particulier un référendum portant sur les matières érigées et tangibles à la Constitution de la République. Constitution qui, par ailleurs, dans le cas de la RDC, il faudra préciser que le référendum est limité au cas suivant: échange, injonction, cession du territoire, regroupement ou démembrement des provinces et révision de la Constitution. L'article 5 de la Constitution énonce un principe général de référendum, mais qui est bien cadré par la Constitution. Il faut qu'on le sache, parce que souvent j'entends nos partenaires d'en face invoquer l'article 5. L'article 5 ne s'applique que dans les conditions prévues par la Constitution. Donc le référendum n'est pas prévu par la Constitution concernant le mandat et le nombre et la durée des mandats du président de la République. Toujours concernant le dialogue, nous nous sommes mis d'accord, nous tous, que la base du dialogue, c'est la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous exigeons la mise en œuvre rapide et intégrale de cette résolution-là. Nous avons dans ce sens-là pris bonne note de la déclaration qui a été faite le 5 de ce mois de juin par les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie. Et je vous informe que, incessamment, le président du comité de charge, le président Tshisekedi, va saisir ces organisations pour leur donner notre position concernant le dialogue politique. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est clair, nous avons une position commune, qui veut dire aussi que nous rejetons catégoriquement le dialogue convoqué par le président de la République dans le cadre de son ordonnance du mois de novembre de l'année dernière. Et nous avons dit que, dans la lettre du président Tshisekedi, il devra dire aux quatre organisations que nous attendons maintenant que la balle n'est plus dans notre camp, nous attendons qu'elle mette en place rapidement la facilitation élargie et que cette facilitation se mette au travail. En tout cas, nous sommes prêts à répondre à l'appel de la facilitation élargie. Donc, que le peuple congolais sache aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a toujours dit, le dialogue politique est une vertu républicaine et démocratique. Nous, les forces vives, les forces politiques et sociales réunies à Genève, nous respectons scrupuleusement ce principe républicain. Donc, ce n'est plus un problème qui se pose chez nous. Et nous rejetons tout simplement les dialogues institutions de validation et de légitimation de stratégies et des ambitions du président de la République et de ses partisans qui sont tout à fait aux antipodes du principe de la Constitution.
Alors pourquoi?
Je voudrais terminer par ce que moi j'appelle les acquis de Genève. Nous demandons aussi, en tout cas nous considérons, qu'il est nécessaire pour la réussite du dialogue et du processus électoral que ceux qui sont au pouvoir prennent des mesures de déclipsation politique qui crée un environnement apaisé et favorable à une issue heureuse des négociations politiques prochaines. Qu'est-ce que nous appelons par l'environnement, si vous permettez? Nous demandons pour cela la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques et d'opinion, les activistes des droits de l'homme et des journalistes, le retour au pays de tous les exilés politiques, la libération de l'espace politique, l'ouverture des médias privés fermés arbitrairement ou confisqués, l'accès libre aux médias publics à tous les courants de pensée politique et sociale, l'arrêt et l'abandon des fracasseries fiscales, administratives, policières, ainsi que de toutes les procédures judiciaires arbitraires contre les membres de l'opposition et de la société civile. Et enfin, nous sommes tous d'accord que le 19 décembre, à minuit, le mandat du président Kabila prend fin, pas en droit, en politique. Ce n'est plus un mandat légal et un mandat légitime. Et donc, nous demandons au président de la République de prendre une disposition pour laisser le pouvoir à cette date-là, conformément à ce qu'il a dit lui-même au mois d'août 2013 à Kingakati, où le G7, nous étions encore dans la majorité. Le président a dit textuellement ceci, en préparation, lorsqu'on préparait la déconcentration nationale, que pour une fois dans notre pays, nous allons assister à une passation pacifique et civilisée du pouvoir. En RDC, il n'y aura plus des chefs d'État qui meurent en exil ou des chefs d'État assassinés. Nous allons maintenant entrer dans la modernité.
Voilà,
en synthèse, les conclusions.
Oui. Voilà. Voilà, on revient à vous, honorable Doudoula, le temps de prendre John qui est à Kikwit et Mouka à Kinshasa. John, vous êtes avec nous?
Oui, oui.
Quel est votre avis par rapport à cette thématique qui est mise sous débat aujourd'hui?
Oui, merci. Merci pour la parole. Moi, je suis en train d'encourager la position prise par les opposants et de ces conclaves parce que voilà, le pays est vraiment au chaos. Il faut chercher par tous les moyens pour le sauver. Je suis contre tous ces gens qui sont en train de menacer cette conclave des opposants. Pour le fait que le pays se trouve dans un chaos. Nous sommes en émoi et nos opposants ont pris de l'initiative justement pour chercher des mesures à pouvoir sortir le pays dans le chaos. En tout cas, je voudrais aussi toucher les points par rapport à ce chaos. Dans tout ça, dans tout ce que nous sommes en train de vivre dans ce pays, et les positions prise, en fait, la position prise par les opposants, moi je me dis que la seule personne qui peut dire un mot pour que tout s'arrête, c'est le président de la République. Il a une grande responsabilité. J'ai entendu les gens citer les noms de Minaku, de ceci et là. Moi je me dis que c'est seul le président de la République qui doit éclairer l'opinion nationale.
Oui, oui, John, vous avez suivi l'honorable Toudoula qui a évoqué le propos, qui a paraphrasé donc le chef de l'État lors d'une rencontre à Kingakati en ce moment-là. Alors que le G7 faisait encore partie de la majorité, qui a dit, je cite, que nous assisterons pour la première fois à une passation de pouvoir, en tout cas pacifique, hein, où il n'y aura pas de problème et civilité. Voilà, c'est le terme que le chef de l'État avait utilisé. Je crois que c'est le champ aujourd'hui qu'utilise l'opposition pour arriver finalement à
ce. Justement, donc justement, le président de la République, il doit tout faire pour pouvoir mettre en œuvre, en pratique, ce qu'il avait déclaré à Kingakati. Alors, si les opposants se rendent compte qu'il n'est pas sur la ligne d'atteindre ce qu'il avait déclaré lui-même à Kingakati, alors ils doivent tout faire ensemble avec la population. Ils doivent chercher à réussir que le président de la République vienne à la fin de son mandat puisse quitter le pouvoir. Parce que, et puis,
oui, mais comment vous
pouvez profiter de l'occasion, s'il vous plaît.
Comment
pour m'adresser à ces gens de la majorité qui ne peuvent pas à tout moment citer les noms de la population. Le peuple, quel peuple est-il s'agit? De quel peuple est-il s'agit là? C'est le peuple congolais ou le peuple de quel pays? S'il s'agit du peuple congolais, j'ai dit non, ils n'ont aucune raison de citer le peuple congolais à tout moment.
Oui, mais
le peuple congolais n'est pas accepté par les pays, c'est s'embourber dans les chaos, je ne suis pas d'accord.
Mais donc, qui a le droit alors de citer le peuple dans leur discours? Parce que nous sommes tous Congolais, tous nous jouissons du droit et liberté, donc de liberté d'expression. Je crois qu'à ce niveau, c'est, nous sommes dans des bonnes guerres, en démocratie, la majorité a le pouvoir et cherche par quel moyen le conquérir et pardon, le conserver le plus longtemps possible.
S'il vous plaît, si c'est dans le cadre de la démocratie, alors ces gens-là peuvent citer les noms du peuple. Mais si c'est pour chercher l'appui du peuple, j'ai dit non, le peuple n'a aucun appui à accorder à la majorité. Hein, pour le fait que, voilà d'abord la situation sociale du pays. Il y a des tueries à Beni. Qu'est-ce que la majorité dit par rapport aux tueries à Beni? Hein? On s'attaque aux opposants, alors qu'il y a le peuple, hein, pour lequel il cherche l'appui, qui est massacré à Beni. Vous allez dire quoi? Hein? La majorité doit dire quoi par rapport à ça? Non, si c'est pour l'appui, j'ai dit non. Le peuple n'a aucun appui à donner à la majorité. Voilà. Mais notre seul combat est que les présidents de la République puissent déposer les pouvoirs juste au délai constitutionnel, qui est un autre président qui aura une autre vision pour le pays, parce que vraiment, on ne peut pas toujours continuer avec cette situation, ça ne va pas.
Voilà, je crois qu'il y a un travail qui est fait, nous ne pouvons pas nier les efforts qui sont menés par-ci par-là. Nous avons vu des débats houleux dans l'Assemblée nationale, quoique cela s'est passé à huis clos. Un débat autour de la situation de Beni. Il y a eu des débats et des interpellations, des lettres écrites avec débat, ou encore des questions orales avec débat au niveau du Parlement. Donc, on dit qu'il y a quand même la question politique qui est prise à bras les corps par les politiques. Donc, on ne peut pas refuser d'accepter quand même cette réalité, John. Bon, on va écouter quand même Mouka qui nous a également rejoint dans ce débat, qui est à Kinshasa. Mouka, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Monsieur Gère, je suis en ligne.
Quel est votre avis, Mouka?
Monsieur Gère, vraiment, moi, je suis très réjoui par ces rassemblements de l'opposition, du fait que ces gens se sont réunis pour qu'on puisse trouver l'issue dans cette crise que nous sentons vraiment très, très vivre dans ce pays. Et en ce moment-là, nous ne pouvons pas voir comment on doit appeler ces gens-là des traîtres et qu'ils sont allés monter un coup d'État contre le Congo. Et nous voyons que quand ces opposants sont en ordre dispersé, ce fait se réunit. Et quand ces opposants se réunissent, en ce moment-là, on appelle les traîtres, ils sont allés en danger pour monter un coup d'État contre ce pays. Et ça ne peut pas se faire comme ça. Et nous voyons aux États-Unis, par exemple, j'avais appris qu'il y a eu des tueries, quelqu'un a tué 650 personnes. On a mis les drapeaux en berne. Et à Beni, ça c'était 30, 40, 100 personnes. Il n'a jamais eu les enfants bien dans la chose dans notre pays. Et quand nous sommes dans l'opposition, c'est lui pour trouver des solutions. On dit que non, celui-là, sont allés là-bas confrontés avec les étrangers pour ça, c'est un coup d'État pour notre pays. Et nous, ils ont fait une place.
Oui, mais c'est moi. Oui. Alors, que répondez-vous à ceux qui estiment que l'esprit et la lettre du point 3 du rapport final de la conférence des forces politiques et sociales acquises au changement en République démocratique du Congo, réunie en conférence à Geval, qui dit ceci, deuxième paragraphe, que le panel, c'est-à-dire l'Union européenne, l'Union africaine, l'Organisation internationale de la francophonie, ainsi que les États-Unis d'Amérique, devra le plus rapidement possible prendre contact avec toutes les parties prenantes et entendre les uns et les autres sur les voies et moyens d'organiser des élections apaisées. Et pour cette personne-là, nous restons seulement dans la rhétorique. C'est juste la théorie, il n'y aura rien de bon, quoi.
Monsieur, vous savez que tout ce que nous avons toujours fait dans ce pays a été toujours soutenu par l'extérieur, par la communauté internationale. Bon, quand on vous donne de l'argent pour subir, pour suivre votre budget, là, vous êtes un pays souverain. Mais quand on vous donne des conseils, faites ceci, faites cela, pour créer la paix sociale dans ces pays, à ce moment-là, ça devient, ces gens-là sont en train d'intervenir dans les affaires intérieures du pays. Mais non, nous ne pouvons pas tromper des gens comme ça. Acceptons ce que je viens de me conseiller, puisque les gens qui disent que nous demandons à notre peuple d'être vigilant, ils doivent savoir que quel peuple à quel peuple ils demandent. Ces gens-là qui souffrent, c'est les gens qui achètent un peu de vieux de 5 décimètres, bataillés par 2-3 enfants pour dimanche. Ce sont ces gens qui demandent, qui n'ont pas de l'eau. Les enfants n'étudient pas, ils n'ont pas du courant. Ce sont ces gens-là qui n'ont pas de travail, ces gens-là à qui on demande de se mobiliser pour bouter les opposants dehors. Non, non, non.
Merci.
C'est de voir Allô?
Merci beaucoup, M. Mouka. Alors, honorable Lotondio, là, vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est vrai. Pourquoi avoir organisé une telle conférence en dehors de la RDC, à l'étranger, notamment à Géval, en Belgique?
Oui, merci pour la question. Je n'ai pas voulu l'aborder parce que tous les compatriotes qui ont parlé à travers votre émission ont démontré que le Congo est vraiment loin et que notre peuple est mûr. Ce sont des questions marginales. Ce sont ceux qui ont ouvert la voie vers l'extérieur pour rencontrer notamment l'UDPS et le doyen Tshisekedi, qui ont été à Ibiza, à Rome, plusieurs fois à Bruxelles et dans d'autres pays. Ce sont eux vraiment qui sont bien placés pour nous parler de conférences organisées à l'extérieur. Que de non, pas du tout. Je crois qu'il faut vraiment cesser de prendre les gens pour des imbéciles. Nous sommes venus à Bruxelles parce que d'abord, nous avions besoin d'un cadre serein. Parce qu'ensuite, nous avons été invités par le doyen, icône de l'opposition démocratique à RDC et même en Afrique, j'allais dire, parmi les icônes en Afrique en tout cas, qui nous a demandé de venir le trouver ici et examiner autour de lui des questions majeures qui se posent à notre pays en vue de solutions. Où est le problème? Et je répète encore, messieurs de la majorité, arrêtez de prendre le Congolais comme des imbéciles. S'il y a eu coup d'État ou je ne sais pas trahison, alors ce sont eux qui ont ouvert la voie à ça. Parce qu'ils sont venus rencontrer les mêmes interlocuteurs, le président Tshisekedi et l'UDPS. Nous, nous sommes venus parce que nous sommes tous de la même famille, la famille de l'opposition. Donc, moi, je crois, j'y ai vraiment, il n'y a aucun problème qui peut se poser. Et coup de chapeau aux Congolais, à tous les Congolais, pour la maturité dont ils font preuve. Ce qui est important, ce sont nos propositions pour sortir le pays de la crise délibérément orchestrée, entretenue et poursuivie par le président de la République et ses partisans. Je voudrais que la majorité comprenne. Aujourd'hui, c'est à elle de débloquer la situation, la crise qu'elle a créée. Je voudrais aussi que le Congolais sache que chez nous, il n'y a pas d'hypothèque à l'avenir. Absolument rien. Nous sommes unis maintenant, comme vous le savez demandé. Nous sommes d'accord pour nous parler, le dialogue au centre matériel, comme tout le monde le demande, comme nous avons toujours préconisé. Ce n'est pas le but dans notre camp, Pierre. Je crois que ça va être clair. Nous sommes disposés, et je vous dis que dans quelques jours, une lettre partira pour la communauté internationale pour vous dire que nous sommes prêts. Nous attendons qu'on nous appelle pour parler notre pays et l'avenir de la démocratie, l'alternance et le respect de la Constitution. Voilà, c'est clair comme de l'autre dans un verre clair, mais tout n'est pas avant.
Oui, mais vous exigez en même temps la convocation par la CENI, en tout cas ça c'est au point 10, je crois, de votre engagement, la convocation par la CENI de scrutin pour l'élection du président de la République le 19 septembre de cette année, conformément à l'article 73 de la Constitution. Est-ce que nous ne tombons pas là dans la rhétorique, la théorie, comme l'a dit tout à l'heure un auditeur, c'est non événement, c'est du déjà entendu, mais les résultats en soi, c'est que les autres veulent avoir.
Bon, partout parler de la CENI. Je n'ai pas voulu aussi prendre du temps sur ça. C'est un point très important. Bon, c'est l'émission des auditeurs. Il faut leur permettre de parler. Nous avons exigé aussi, en tout cas nous avons estimé à ce qui nous concerne, que nous devons examiner le fonctionnement et l'organisation de la CENI actuelle pour plus d'indépendance, plus de neutralité et plus d'impartialité. Maintenant, en ce qui concerne notre demande de calendrier, mes chers, on ne peut pas discuter de ça. C'est une exigence constitutionnelle. Vous avez invoqué l'article 73 de la Constitution. Il s'agit de mettre en œuvre, d'appliquer cet article. Est-ce qu'il y a un mal à cela? La CENI doit, c'est une obligation constitutionnelle. Et pour nous, qu'on le sache, le 19 septembre de cette année, si la CENI ne donne pas des indications, ne sort pas le calendrier des élections, nous allons l'exiger par toutes les voies de droit et toutes les voies démocratiques.
Merci beaucoup.
Maintenant, ça sera vraiment le droit du Congolais de réclamer qu'on lui dise quand est-ce qu'il va y aller. Bon, est-ce qu'il réaliste ou non? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais aujourd'hui, l'élection présidentielle, qui est la seule élection pour laquelle le constituant est très strict. Il faut qu'on annonce. Nous n'inventons absolument rien du tout. Rien du tout.
Voilà, on va revenir à vous, honorable.
Où nous voulons la Constitution, ou nous ne la voulons pas.
On va revenir à vous, étant donné la ligne de Joséphine qui est à Boston. Joséphine, merci de nous avoir rejoints.
Ah, merci beaucoup, Radio Capi, de m'avoir passé la parole. Hein. Je vais féliciter seulement le courage et la volonté, surtout la volonté. Et ça me surprend que dans un temps record, deux jours ou bien deux nuits, pendant deux jours, on peut trouver des solutions quand le Congolais veut, quand le Congolais a la volonté. Bon, je vais demander aux gens qui veulent exiger au président Joseph Kabila de parler encore, de dire quelque chose. Le président Joseph Kabila a déjà dit tout. Mais le problème, c'est seulement de passer maintenant à l'action, aux actions. Comme il y a l'action au mois de septembre, hein, qu'il fasse tout pour que Kone Enanga appelle pour les élections. Et puis, le 19 décembre, qu'il quitte. C'est une action. Merci beaucoup pour avoir passé ma parole.
Merci beaucoup, Madame Joséphine, d'avoir appelé de Boston. On rejoint ici à Kinshasa, professeur Robert, qui est à l'UNIKIN, à l'Université de Kinshasa. Professeur, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Monsieur GM. Merci. Il m'envoie parole à passer la parole. Je ne suis pas, un prophète, mais je crois que sur ce plateau, nous avons parlé avec le président de la CENI, où il s'est expliqué que si vraiment le peuple congolais veut être sauvé, les paroles doivent être traduites en actes. C'est-à-dire, lancer la campagne électorale, les enregistrements d'abord, ensuite, aller aux élections, et en deux jours, on peut obtenir le résultat. Comme le président a déjà donné son mot, c'est l'entourage peut-être qui le dérange. Mais voici que, comme il a dit qu'il faudra qu'il fasse une passation
pacifique et civilisée.
Pacifique et élégante. Je crois que c'est une grande personnalité. C'est une grande personnalité qui ne peut pas se dédire. Donc, c'est tout comme maintenant, moi je propose, s'il n'y a pas d'argent, parce que c'est le problème toujours de budget, si on peut donner l'occasion à toutes les provinces de réunir les leaders d'influence qui existent dans chaque province, qu'ils mettent le paquet dans la main dans leur poche pour outiller les différents postes de la CENI qui sont dans les provinces, ça irait très bien. C'est une façon de mobiliser.
Professeur Robert, vous l'avez dit, nous avons reçu ici dans ce studio Corneille Nanga, président de la CENI, qui a reconnu qu'effectivement, parmi des indications claires, il y a entre autres aujourd'hui les décaissements par le gouvernement congolais d'une somme d'argent pour pouvoir poursuivre le processus électoral. Et lors de son interpellation au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat, le Premier ministre a reconnu avoir déjà mis à la disposition de la CENI un montant de plus ou moins, en tout cas près de 200 millions de dollars. C'est pratiquement le un quart, si mes calculs sont bons, de ce que avait besoin la CENI pour organiser l'ensemble des élections, qui ont été évaluées à 1 milliard pratiquement. Alors aujourd'hui, 200 millions, je crois que ça, ce sont des observateurs qui spéculent dans ce sens pour dire qu'avec les 200 millions, on pouvait déjà organiser le premier scrutin. Merci beaucoup, Monsieur Robert, d'avoir appelé de Kinshasa. Professeur, vous êtes à l'UNIKIN. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue. Maître Sonville, vous êtes avec nous? Voilà, on a discuté avec la ligne de Maître Sonville. On revient à vous, honorable Loutoudoula. Vous avez suivi les uns les autres. Alors, quelle est votre réaction en quoi les propos des uns des autres qui, en fait, encouragent la rencontre de Bruxelles?
Oui, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes satisfaits et vraiment nous félicitons les Congolais. Les Congolais ont atteint un niveau de maturité tel qu'on ne peut pas se permettre de leur raconter n'importe quoi. C'est le message que j'adresse à tout le monde, la majorité, l'opposition et toute autre personne qui s'intéresse à la vie politique au Congo. Évitez de dire n'importe quoi. Et à ce qui concerne le budget, je voudrais préciser ceci. Le budget du milliard poussière qui était prévu, c'était un budget pluriannuel. C'est-à-dire qu'il s'étend sur plusieurs années et qui devait faire grosso modo, depuis la présentation, pratiquement 4 ans. Et depuis 4 ans, on ne reviendra pas sur ce qu'on a déjà dit. Tout le monde sait qu'à l'Assemblée nationale et au Parlement, et au Sénat, donc le Parlement a toujours voté au moins 200 millions de dollars pour affecter, pour préparer les élections. Et on sait que ces 200 millions de dollars n'ont jamais été mis à disposition de la CENI intégralement. En tout cas, pas même à continuant de 50%. Et ce qui est plus important, c'est que, il y a eu des déblocages de fonds. Donc aujourd'hui, même si on prenait le milliard, c'est de plus de milliards. Lors du vote du budget de l'exercice en cours l'année dernière, les prévisions pour la présidentielle législative étaient de l'ordre de 480 millions de dollars, revus par la CENI du temps de l'abbé Malumalu. Le vote, les crédits que nous avons votés, c'est de l'ordre de 580 millions de dollars. Ça veut dire en clair que nous avons voté un budget qui est même supérieur par rapport à l'élection présidentielle et aux élections législatives. Même s'il y a eu la loi rectificative du budget, ce qu'on appelle le collectif budgétaire, les proportions sont telles qu'il est possible d'organiser la présidentielle et les législatives d'ici le mois de novembre, en tout cas dans les délais constitutionnels. Sans compter que les partenaires extérieurs ont toujours répété ils avaient des fonds disponibles. Et il y a eu même des décaissements, peu importe les proportions. Je veux dire tout simplement qu'en réalité, ce qui se passe ici, hier et mes chers compatriotes, c'est une question de bonne foi et de volonté politique de la part de ceux qui dirigent notre pays. Dès lors qu'ils sont dans la perspective d'une politique, d'une gouvernance des défis, dans les stratégies des gardiens de pouvoir, eh bien, nous serons bloqués comme on l'est aujourd'hui. Voilà ce que je voudrais dire à l'opinion. C'est pour cela que dans notre déclaration de Genève, nous avons dit au peuple congolais qu'il doit se tenir prêt pour qu'ensemble, nous puissions réclamer par toutes les voies, j'insiste, de droit et démocratique, pacifiquement, que la Constitution soit respectée, que les élections aient lieu dans le délai constitutionnel, n'en déplaise à la Cour constitutionnelle, qui a rendu un arrêt, en tout cas, fort controversé, et qui ne cadre même pas avec l'esprit de la Constitution, et que nous devons réclamer tout cela. Un peuple ne peut jouir de ses droits que quand lui-même a amené son destin et les revendique, conformément
au
droit et aux normes démocratiques. Voilà.
Oui, honorable. Quand nous lisons le rapport final de la conférence, il est dit, juste la dernière phrase, le participant remercie très sincèrement le peuple belge, ainsi que les autorités belges pour leur hospitalité d'abord, et pour leur soutien à la tenue de la conférence. Est-ce là, vous ne donnez pas raison à ceux qui ont donné de la voix pour dire qu'il y avait quelque part des gens qui tiraient la ficelle?
Oh, laissez-moi rire. On ne peut pas quand même oublier les bonnes manières. Tout ça en matière diplomatique. Les gens viennent chez nous à RDC, à Kinshasa, on leur donne l'autorisation d'organiser une conférence pour réfléchir sur l'avenir de leur pays. Et vous croyez que ces gens vont rentrer comme ça en vous brûlant la politesse? Il n'y a même pas un seul mot de remerciement. Dans quelle civilisation sommes-nous? Nous sommes quand même un peuple civilisé. Vous comprenez? Ça, c'est une exigence normale, c'est une séance. On ne peut pas en faire un drame. Bon, on a dit encore quoi? Vous voulez penser on veut penser qu'on nous a remis l'argent. Non, en tout cas, moi, j'ai payé mon billet, je me suis pas venu sur la famille. Et il en est de même de tout le monde. On peut vérifier. Et je reviens encore. Passons à l'essentiel. Cette sorte de nationalisme folklorique, de façade, c'est dépassé, ça. Le nationalisme, c'est le respect de la Constitution, le respect de l'intérêt national, c'est tout le reste, ça devient du folklore. Et ceux qui sont bienvenus, qui passent chaque semaine ici à Bruxelles, Paris, Washington, Londres, New York, avec les moyens de l'État.
Alors,
ils ont vraiment de l'espoir à donner aux gens.
Alors on termine par cette question, conférence de Jabal égale la conférence de Gorée.
Absolument pas du tout. Gorée a été organisée par une fondation allemande. Gorée a réuni quelques personnes, quelques Congolais, et Gorée n'a pas sorti une déclaration politique à la portée de la nôtre. Ici, nous avons répondu à des exigences précises de la population, exprimées notamment à travers la Géocapi, coup de chapeau. Vous n'êtes pas unis. Aujourd'hui, nous leur disons, nous sommes ensemble. Vous ne voulez pas parler entre vous. Aujourd'hui, on leur dit, nous sommes toujours, nous avons toujours été, nous resterons toujours acquis au dialogue politique, mais pas à celui qui est géré par le président Kabila pour nous permettre de continuer à mener la Constitution.
Merci.
Et à arrêter au pouvoir.
Merci.
Nous avons dit à la communauté internationale, nous sommes prêts. Voilà.
Merci beaucoup.
Défendez vos droits. C'est précis, c'est clair. Ça n'a rien à faire avec Gorée. Gorée nous a permis d'amorcer une démarche de rapprochement avec le Front citoyen qui a même été représenté.
Merci beaucoup, honorable Lukindoula, membre de G7, pour avoir accepté notre invitation dans cette émission depuis Belgique où vous êtes intervenu dans cette échange citoyen. Merci à vous tous, chers auditeurs, d'avoir eu l'occasion de contribuer dans ce débat. Et nous prenons rendez-vous avec vous demain dans un autre numéro. Merci également à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Jean-Noël Mokombe à la mise en onde, Pierre Lamégé à la réalisation, Julie Pesabourouda à tirer les standards, J.R. Lugembo a eu le plaisir de coordonner et présenter cette émission sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe. À très bientôt.